Il est 9h24 minutes, mais ça me fait plaisir de recevoir l'écrivaine Christine Brouillette qui publie les dernières aventures, 19e aventure en fait de Maude Graham dans un roman bien sûr une intrigue policière comme c'est sa spécialité et qui s'appelle Les Cibles, c'est son 19e roman qui met en vedette Maude Graham. Bonjour Christine Brouillette.
Bonjour, oui, ça va bien.
Ça va bien toi-même?
Très bien.
Bon. Très bien. Et hey, là, tu tombes dans les obscurs méandres de l'âme humaine. Tu t'en vas dans l'homophobie et l'intolérance dans ce roman-là,
oui,
mais pas à peu près.
Il faut en parler parce que tout n'est pas réglé, malheureusement.
Oui.
Si c'était pas le cas, moi, c'est la colère qui m'a poussé à écrire ce roman-là.
Ah oui, hein?
Oui, parce que je trouve qu'on est en 2020. Il y a encore beaucoup de pays, je pense une 70 pays dans le monde où l'homosexualité est condamnée. Et certains, c'est peine de mort, prison et tout.
Ouais.
Donc, il y a toujours bien des saintes limites. Là. Moi, je suis outrée de ce genre de comportement-là. C'est sûr qu'au Québec, c'est mieux que bien des places, mais il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas admissible que dans les cours d'école, on entende des enfants se faire traiter de tapettes, de fif, de pédales. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça commence jeune, là, puis il faut que ça s'arrête pour que les comportements changent. Alors, voilà, je suis allée de mon coup de colère et ça a donné un mot de grâne qui s'attaque au problème.
Oui, puis ça commence dès le début du roman. D'ailleurs, là, on rentre direct dans le vif du sujet.
Oui.
D'ailleurs, le roman, c'est... Oui, c'est ça, il n'y a pas de doute, là, on sait où on s'en va. Il n'y a pas, y a pas d'ambiguïté.
Non, Barry est carrément homophobe, là, puis il va transmettre ça à son fils. Donc, c'est pas une très bonne idée.
Ouais, mais tu les prends où ces sujets-là? Tu t'inspires de ce que tu entends autour de toi, de la vie, de ce qu'il y a, de ce qui se déroule?
Parce que quand on fait un peu de recherche sur Internet, on en trouve des agressions qui ont lieu contre la communauté LGBT. Là, c'est pas difficile de trouver des exemples. Là. Moi, je m'inspire jamais d'un cas précis pour le mettre dans mon livre. C'est de la fiction, mais la fiction est alimentée par tout ce qui se passe, par des comportements qui sont répréhensibles. Il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous, puis ça existe. Donc, je dis pas que c'est tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, mais je trouve pas ça normal que des gens qui, simplement parce qu'ils aiment une personne de leur sexe, soient ostracisés par la société. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont de mon âge, qui ont jamais dit à leur famille ce qu'ils vivaient. Puis je pense aux jeunes qui viennent de tomber en amour, puis qui en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leurs amis, par leur famille. Je ne sais pas le nombre de témoignages que j'ai lus de jeunes qui disaient « Non, je ne peux pas en parler parce que mes parents vont me mettre à la porte de la maison. » Voyons donc. Là, ça me sert le cœur d'entendre des choses comme ça. Alors, j'ai mis Maude Graham sur le dossier.
Oui, exactement. C'est elle qui est responsable de régler ce dossier-là.
C'est elle qui s'occupe de tout.
Mais en plus, dans le roman, on aborde toutes sortes de... Oui, beaucoup évidemment l'homophobie, mais l'homophobie chez les hommes, l'homophobie chez les femmes, comment on vit par exemple avec une personne dans sa famille qui accepte pas l'homosexualité d'un autre, puis tu touches à différents niveaux de société également là, dans le roman. C'est pas juste, souvent on peut avoir des clichés sur l'ignorance des gens, etc., mais là on touche à plusieurs niveaux de société.
Mais c'est comme le racisme, hein? C'est dans il y a pas une couche de la société qui est épargnée par ces travers-là, là. Tout le monde peut être raciste et tout le monde peut être homophobe. C'est pas parce que c'est pas attaché à un milieu en particulier. C'est des sentiments qui sont négatifs. C'est la jalousie. C'est la peur de l'autre, en fait. Puis la peur de l'autre, la peur de quelqu'un qui est différent de toi, tu peux le ressentir, que tu sois camionneur ou médecin émérite, là. Ça n'a rien à voir avec le niveau de vie sociale. Et je pense que c'est l'ouverture d'esprit qui caractérise ça. C'est de se dire, quelqu'un qui est différent de moi est dangereux ou est à bannir de la société. Mais moi, je voudrais pas d'une société uniformément blanche et hétéro. Mon Dieu, que ça serait ennuyant. Ce qui est formidable, c'est d'être entouré de gens qui sont différents de nous, qui nous apportent d'autres manières de penser, d'autres cultures. C'est une richesse d'avoir accès à toutes sortes de cultures. Moi, je me souviens quand j'ai vécu longtemps à Paris.
Oui.
Et je me souviens les premières journées ou les premières fois où je prenais le métro, j'étais émerveillée de voir des femmes qui étaient en boubou, en sari. J'entendais parler toutes sortes de langues. C'était vivant. c'est ça, c'était vivant. Et je trouve que c'est important d'être ouvert à l'autre parce que l'autre nous apporte énormément.
Bon, sur le plan de, par exemple, on dit souvent que la société québécoise est une des plus ouvertes au monde, entre autres sur les questions d'homosexualité et des droits des LGBT, par exemple, etc. Et c'est pas l'impression qu'on a quand on lit ton livre, en tout cas.
Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ouais. Moi, je me suis attachée juste à la problématique homophobie, là, par rapport à tout ce qui est homosexualité. Mais si j'avais parlé de tout ce qui est transgenre, ça aurait été encore pire. Parce qu'il y a des gens qui trouvent pas d'emploi, puis qui trouvent pas à se loger non plus, simplement parce qu'ils sont pas nés dans le bon corps. Ça n'a pas de bon sens, ça. Je veux dire, t'as le droit. Moi, je considère que tant qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, on a le droit d'être qui on est, comme on veut, et d'aimer qui on veut, sans rendre de compte à personne. C'est une chose qui est personnelle, qui est intime, qui devrait être vécue dans la joie, même si est en amour, qu'on soit dans n'importe quel sexe, avec n'importe quel sexe. C'est toujours un petit peu compliqué. Oui. Mais ça, c'est normal, c'est la vie. Là, on est juste des humains. Mais on devrait tous être logés à la même enseigne par rapport à ça.
Oui.
Avoir les mêmes doutes, les mêmes craintes et les mêmes bonheurs.
Ouais. Évidemment, l'action se passe en partie à Montréal et par la suite à Québec, dans l'enquête. Comme si,
oui, je peux dire tout de suite que toutes les enquêtes de Montgram se passent à Québec, mais la ville n'est pas aussi dangereuse que dans mes livres.
Oui, c'est ça exactement. Mais c'est justement
Il y a beaucoup moins de meurtres à Québec que dans les Montgram.
Exactement, parce que si on se fie à toi, moi je ne veux pas aller vivre à Québec, je m'en viens tout de suite à Montréal.
Mais non. Mais d'ailleurs, je suis très contente que mes livres ne reflètent pas la réalité à ce niveau-là, parce que moi, j'ai de la famille et j'ai des amis à Québec, donc je préfère que la ville reste ce qu'elle est.
Oui.
Mais quand même, bon, pour les besoins de la cause, on la met un petit peu plus dangereuse.
Oui, c'est ça, exactement. Mais tu disais tout à l'heure que tu t'inspires pour tes romans, de ce que tu vis, de ce que tu entends, de ce que tu vois autour de toi. Là, évidemment, on est dans une période assez particulière qu'on n'a jamais vécu d'ailleurs de mémoire d'homme là.
Non.
Est-ce que ça t'inspire, ça pourrait t'inspirer un roman?
En fait, ça me gêne d'une certaine, comme tout le monde, on aurait préféré ne pas avoir à traverser ça, mais moi ça m'ennuie parce que moi je prends beaucoup les transports en commun. Puis j'écoute beaucoup les gens parler, puis ça, c'est souvent des sources, des pistes pour des informations et tout ça. Donc ça, je suis privée de ce
volet-là. Du contact direct, quoi, des gens, là.
Mais oui, mais d'un autre côté, moi, j'ai pris beaucoup de notes. Évidemment, le prochain livre que je suis en train d'écrire, là, ça se termine en 2017, donc je parle pas de la pandémie.
Ouais.
Mais le gramme suivant, donc en 2022, il va en être question, bien sûr, parce qu'on peut pas faire abstraction de cette chose, de ce chaos qui nous est tombé sur la tête. Je vais devoir en parler, ça sera pas le sujet d'un roman, mais Maugram va vivre avec la pandémie
comme tout le monde, oui.
C'est ça, mais je ne pouvais pas écrire le roman maintenant, là je suis en période d'écriture, je ne pouvais pas écrire le roman où ce qui se passait durant la pandémie, on ne sait pas comment ça finit.
Oui, c'est ça.
Je ne peux pas commencer un roman quand je me dis, oups, j'ai écrit quelque chose, puis finalement,
on trouvera une fin.
Je suis un peu dans le trouble. Là. Fait que je me suis dit, non, mais de toute façon, j'avais prévu autre chose, mais c'est vrai que j'étais tentée de refaire tout de suite un Maud Graham parce que je connais Maud par cœur, puis je connais sa famille, ses amis, donc ça facilite toujours pour moi l'écriture de faire un Maud Graham. Mais je suis allée carrément ailleurs, et puis Maud reviendra ensuite, mais j'ai pris beaucoup de notes parce que, évidemment, on se souvient de la journée où on a été confinés, on se souvient de la journée où il y a eu les écoles, puis bon, les gros moments de la pandémie, le nombre de morts qui augmentait et tout ça, mais les détails du quotidien, ça, la mémoire est une faculté qui oublie.
Ouais.
Alors, avec mon vieil âge, je me suis dit non, je vais prendre des notes. Je vais prendre des notes. Puis quand je serai à l'écriture du mot de gramme, je consulterai mon journal de bord, puis je garderai ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, mais au moins j'aurai une matière sur laquelle m'appuyer.
Ouais. Mais en fait, quand on écrit des romans policiers, j'imagine qu'on doit toujours s'inspirer, essayer de trouver des façons de commettre un crime, toujours le crime parfait, etc. Est-ce que le contexte, la pandémie, où tout le monde est chacun chez soi, etc., ça peut inspirer un auteur ou si ça met plus de barrières qu'autre chose?
Ben oui, non. Je pense qu'on peut traiter toutes sortes de choses, mais la première chose auquel j'ai pensé, moi, avec la pandémie, c'était les femmes qui sont enfermées avec leurs bourreaux. dans
ah,
les
ben oui.
familiales. Bon, comment tu peux te sauver d'une situation dramatique quand ton mari qui te bat est à côté de toi en permanence? Ça, c'est une problématique, puis je suis persuadée que ça a été vécu, puis qu'il y a eu une recrudescence de violence conjugale, de violence mm-hmm. familiale. Ça, c'est sûr que Maugram va se pencher sur le sujet. Ça peut pas faire autrement. C'est une évidence. J'ai même pas besoin de faire de recherche. C'est clair que c'est ça qui s'est passé. Puis au Québec, comme partout ailleurs, là, tout ce que j'ai lu d'informations, la violence conjugale a été vraiment parce que les gens étaient enragés d'être chez eux. Puis bon, ça allait déjà pas dans un couple, mais là, il faut que quelqu'un paye. Puis c'est la personne qui est à ouais. côté qui prend les coups. Donc bon, il y a des choses comme ça qui sont à considérer. Je prends beaucoup de notes. Je vais avoir de quoi m'occuper.
Mais t'es très, très prolifique comme auteur. Là, t'es rendu à, je sais pas, j'essayais de compter, puis j'ai arrêté à 30-quelques.
Ah, oh, ben on chaud de 60.
Ah oui, c'est ça. Ben, tu vois, j'ai bien fait d'arrêter de compter, mais je sais pas compter jusque-là. Qu'est-ce que tu veux?
Mais je suis meilleure en français qu'en calcul.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais quelle est la gymnastique que tu t'imposes de travail à tous les... Ça doit être assez contraignant. Là, tu dois absolument travailler à tous les jours, j'imagine, pour être capable de produire autant d'histoires et d'histoires qui...
Ben
qui...
oui, mais je fais juste ça quelque part. Là. Donc, ouais. C'est du travail à temps plein. Donc, j'ai des horaires d'à peu près tout le monde. Je fais pas du 9 à 5, mais à peu près, malgré tout.
Et, tu t'imposes de faire ça, oui?
Oui, ben je prends congé le dimanche. Le dimanche, c'est une journée qui est consacrée à la lecture. Alors, je lis. Mais bon, je lis tous les jours, là, mais le dimanche, c'est vraiment toute la journée.
Ouais.
Non, moi je fais pour écrire, c'est prendre la discipline. C'est sûr que quand les gens me disent ça prend l'imagination, oui, ça prend l'imagination, mais ça prend surtout de la discipline et de la ténacité. Quand on arrive à créer le plan, après le plan, se plonger dans le roman, les débuts sont toujours difficiles. Il faut créer les personnages et ensuite persévérer. Quand on arrive à la moitié, je mettrai tout aux poubelles. Et
ah oui, il y a une période de ça c'est classique. À chaque roman, c'est la même chose.
C'est classique. À chaque roman, je dis, ah non, c'est vraiment, c'est raté. J'ai tout. Mais heureusement, j'ai une éditrice qui me suit. Donc,
ouais, je l'ai raté. Je l'ai plus. Je suis plus capable d'écrire. Tout ça, ça doit tout passer.
Mon chum, il peut le dire avant que je le dise moi-même. Là. Puis là, il va me dire, oui, puis tu vas dire que c'était pire l'année dernière, mais que c'est pire cette année.
Ah oui, hein?
Oui, il y a une espèce de je sais pas, ça revient chaque année. Peut-être que je vais y échapper cette année, sait-on jamais. Mais c'est amusant parce que, mais c'est amusant, là, j'en rigole, mais quand je suis dedans, je trouve ça moins drôle. Mais quand j'étais plus jeune, je pensais que plus j'écrirais, plus ça serait facile. Mon Dieu, que je me trompais.
Ah oui, hein?
Okay. Oh là là,
on devient
là là.
Plus exigeant, en fait, parce que on affine l'art, puis à un moment donné, tu deviens encore plus exigeant.
Oui.
Moi, j'imagine que les quand tu relis tes premiers romans, tu dois trouver plein de trucs que t'aimes pas, finalement.
Je les relis pas souvent.
Non?
Non. Je préfère lire les autres, les livres des autres.
Oui.
Moi, je suis en compétition avec moi-même, mais mm-hmm. je suis pas en compétition avec les autres auteurs. Puis au Québec, on a des auteurs formidables. Vraiment, là, il y a des livres que j'ai lus récemment qui m'ont épaté. Donc, tant qu'à prendre du temps, je vais lire les livres de mes collègues, puis je suis une bonne lectrice. En plus, moi, quand je lis, je suis pas en train d'analyser le livre. Je lis parce que je plonge dedans, puis j'aime être emportée par des personnages, par un sujet. Donc,
Mais quand on écrit des romans policiers, tu sais, des romans d'amour, on a tous notre expertise personnelle là, en amour, fait qu'on peut aller puiser là-dedans puis s'inspirer de ça. Mais les romans policiers, il faut que ça se tienne et il faut que ce soit réaliste. Il faut qu'un policier, par exemple, qui décide de changer d'idée en vacances puis de lire une enquête de Maud Graham, il faut que ce soit réaliste. Il faut qu'il soit capable de dire, ben ça, ça a du bon sens puis ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, tu fais quoi pour t'assurer de la véracité des enquêtes?
Ben, c'est sûr que ça reste de la fiction, mais j'ai quand même, depuis le temps que j'écris, là, ça fait 38 ans, j'ai quand même des complices. Mes complices, c'est évidemment, j'ai rencontré des policiers, quelqu'un qui travaille au laboratoire de sciences judiciaires. J'ai parlé avec des avocats, des journalistes. Ça dépend du sujet où je me souviens d'avoir parlé, il y a très longtemps, j'avais écrit un roman sur le syndrome de Munchausen par procuration.
Ouais.
Et là, j'avais vraiment parlé à un médecin qui connaissait le sujet, parce que c'est un sujet particulier. Je cherche des gens qui peuvent me parler de ce dont moi je veux, ce que je veux dénoncer. Mais ça, c'est une chance chance d'avoir ces gens-là qui peuvent me répondre sur la trajectoire de sang ou sur la triangulation des téléphones ou sur tout ce qui fait partie d'une enquête. Mais c'est vrai que ça reste de la fiction. J'essaie d'être le plus juste possible. Puis quand mes romans qui se situent à Québec, je fais du repérage, je vais sur les lieux où je veux faire une scène de crime ou une scène de quoi que ce soit. Okay, là.
Parce que, Mandy, si tu parles du parc un tel, il faut que ça ressemble au parc en question.
Je suis allée le voir de proche, là. Ouais. Donc, non, ça, je le fais. Puis vous pouvez t'assurer que si je parle d'un restaurant, je l'ai essayé.
Ben oui, en plus, c'est épicurienne, alors...
Oui, les recettes sont testées aussi. Mais bon, je trouve que c'est normal de faire notre travail de recherche et de balisage. Là. Il faut quand même que ça soit un peu... Mais quand même, on dit que c'est de la fiction. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a quand même pas autant de meurtres que ça à Québec. Là. Donc, quand les lecteurs embarquent dans un mot de Graham, ils savent que je leur raconte une histoire. L'idée, c'est qu'il faut que l'histoire soit vraisemblable pour qu'ils y croient le temps de la lecture. Mais après ça, ils peuvent prendre le train ou l'autobus pour se rendre à Québec sans danger.
Oui, c'est ça. La ville est toujours aussi accueillante à Québec.
C'est une belle ville, Québec.
As-tu encore un pied à terre à Québec?
Non, j'ai pas de pied à terre à Québec, mais mon cœur est entre, oscille entre Québec et Montréal.
Parce que tu es originaire de Québec, tu es né à Québec, à Loretteville,
je pense.
Oui,
moi, je suis à Loretteville, oui, c'est ça. Donc, puis ma famille est encore là-bas, puis j'ai des amis très chers qui y sont. Donc, j'allais à Québec plus souvent avant la COVID, là. Mais on va recommencer quand même à bouger. Là, les trains fonctionnent, les autobus fonctionnent. Donc, c'est envisageable. Là. On essaie de voir comment les choses vont continuer à évoluer. Mais il y a les restaurants qui ouvrent. Et j'ai eu des mots très sympathiques, d'ailleurs, de restaurateurs qui me disent « Quand tu viens nous voir à Québec et tout. » Parce que je suis quand même fidèle aux gens que j'aime bien dans les restaurants. Puis je trouve que les restaurants, ils font des efforts tellement colossaux pour pouvoir accueillir les gens dans les circonstances qui sont loin d'être faciles.
Et en sécurité aussi. Moi, je suis allé... Alors, on fait évidemment avec la situation actuelle. On n'a pas le choix. Là. C'est pas aussi agréable que c'était, puis c'est vrai. Sauf qu'une fois que tu es rendu à ta table, il n'y en a pas de problème.
Mais oui, tu mets ton masque, puis tu l'enlèves en arrivant quand tu commences à manger, puis c'est pas plus compliqué. Puis on ne va pas personne mourir de mettre un masque. C'est le contraire.
Mais
c'est
voilà.
De ne pas le porter. Donc, moi, je trouve que pour les restaurateurs qui font le travail, là, il faut vraiment que tous ceux qui prennent pas ça au sérieux aient des amendes ou qu'on ferme carrément leur bar s'ils sont pas capables de respecter les normes. Parce que pour tous ceux qui font le travail correctement, tous les employés qui donnent beaucoup d'énergie puis qui travaillent avec des masques toute la journée, moi, je trouve qu'il faut les aider, il faut les encourager, il faut faire notre part. Donc, moi, je les aime, les restaurateurs. Parce que même en dehors de la pandémie, c'est pas un métier qui est facile. C'est un métier difficile à être chef. Tu es debout tout le temps, tu es dans la chaleur, dans le froid, tu as du bruit. Tu sais, c'est pas facile. Puis en plus, à travers ça, il faut que tu sois un créateur. Moi, je n'ai que de l'admiration pour eux. Alors, je veux qu'on les soutienne, qu'on les aide et puis qu'on respecte les normes.
Voilà. Sur ces sages paroles.
mon petit quart d'heure éditorial.
Exactement. Peut-être que Maud Graham portera un masque dans le prochain roman, histoire de sensibiliser les gens. Alors, le livre s'appelle Les Cibles, et puis c'est le 19e roman mettant en vedette Maud Graham. C'est publié chez
Druide, et ça paraît demain en librairie.
Voilà. Alors, merci, Christine, et puis bonne fin de pandémie.
Merci beaucoup. Oui, pareil pour toi.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Bon été.
Merci
bye
à toi aussi. Christine Brouillette est donc écrivaine. Elle vient de publier Les Cibles chez Druide.